Bonjour à tous, chers auditeurs. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous recevoir dans le studio du Rocast de Radio Grand Ciel. Roland Richard enregistre cette émission et la réalisera. Cette émission d'aujourd'hui, Histoire d'en savoir plus, va être consacrée à la journée du 27 janvier qui a été décrétée journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Dans mon studio aujourd'hui, Marlène Martin-Fillon, professeur au lycée Albert Camus, et Nolan, l'un de ses élèves. Bonjour.
Bonjour Marie-France, ravie d'être avec toi.
Nous allons donc parler de cette journée qui a été commémorée dans le monde entier. J'ai vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux le roi et la reine de Suède qui se recueillaient devant le monument de la Shoah ce jour-là.
Oui, voilà, c'est une journée internationale qu'on appelle la journée de commémoration pour la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le 27 janvier, qui correspond évidemment à la fois à la période de libération, alors tu m'excuseras, je ne vais pas dire des camps, mais des centres de mise à mort ou des centres de concentration, mais aussi c'est cette période durant laquelle les Juifs ont fait la marche de la mort.
En particulier d'ailleurs, la libération du camp d'Auschwitz, Birkenau, en Pologne, a eu lieu le 27 janvier.
Oui, exactement. Alors, le camp de Auschwitz-Birkenau est un camp assez particulier puisqu'il était à la fois camp de concentration et aussi centre de mise à mort. Il faut savoir que la plupart, hormis Birkenau, tous les centres de mise à mort ont évidemment disparu, ont été détruits par les Allemands afin qu'on ne puisse pas découvrir l'innommable.
Tu voulais ajouter quelque chose, Marlène ?
Oui, ce que je voulais te dire, c'est que lorsque j'ai fait ce voyage de mémoire avec mes élèves en 2013, je me souviens d'une réflexion d'élèves. Lorsque nous avons décidé de partir au mois de mars, en Pologne, et notamment à Auschwitz-Birkenau, tout au long de l'année, nous avons eu ce besoin, évidemment, de préparer nos élèves. Avec le mémorial de la Shoah, avec le musée d'histoire du judaïsme, avec des interventions au sein de notre école. Et lorsque j'étais à un moment donné à Auschwitz-Birkenau, une de mes élèves m'a dit, face au baraquement où il y avait eu des expériences sur les jumeaux, et me regardant, sachant que j'étais mère de jumeaux, elle m'a dit en me prenant la main, « Madame Martin-Fillon, trop de morts. Trop de morts, je n'en peux plus. » Et je me suis rendu compte que mon approche n'avait pas été la bonne. Elle avait été trop émotionnelle, trop compatissante.
C'est difficile aussi de ne pas avoir cette approche.
C'est ce que j'allais dire, parce que l'idée, c'est de pas non plus évacuer les victimes. Et au mois d'octobre, je suis allée en formation au mémorial de la Shoah, et j'ai entendu la question d'un collègue d'histoire-géographie, parce qu'il y avait quand même beaucoup de collègues d'histoire-géographie à cette formation, bien sûr, plus que de lettres, qui a expliqué, mais au lycée, pour faire la Seconde Guerre mondiale, nous avons 5 heures. Donc forcément, la Shoah est passée très rapidement. Et ça m'a marquée. J'ai entendu une inspectrice, une IPR d'histoire-géographie, j'allais dire presque en hurlant, en tout cas en le disant de manière très forte et très autoritaire, en disant que dans la vie, enseigner c'était politique et qu'il y avait des choix à faire. Je suis rentrée avec mon hôtel avec cela et je me suis posé la question si moi, depuis plusieurs années, les choix dans les œuvres que je fais, s'il y avait derrière de la politique. Ça me parle un peu quand même, la politique. Et je me suis dit, en fait, ce voyage de mémoire que j'ai fait à Auschwitz-Birkenau, je m'étais promis de ne jamais le refaire, puisque j'estimais que c'était l'expérience avec mes élèves. J'ai maintenant très envie de le refaire, avec une approche complètement différente. Avec une approche beaucoup plus historique, avec une approche beaucoup plus politique. C'est-à-dire vraiment leur montrer qu'il y a une logique génocidaire, vraiment leur montrer que ce n'est pas uniquement un emballement collectif, que ce n'est pas uniquement une folie. Tu vois, c'est ça ce qui est fabuleux dans notre métier d'enseignement, c'est que constamment, nous sommes en train d'apprendre, par la lecture, par les formations que nous suivons, dans le but de donner le meilleur de l'enseignement que nous pouvons. Et je ne dis pas qu'en 2013, je n'étais pas une bonne enseignante, j'espère avoir fait bien mon travail, mais tu vois, aujourd'hui, par rapport à la Shoah, je ferai un autre choix. La dernière chose que je voulais te dire, que je n'avais pas non plus su apprécier en 2013, c'est la terminologie. Aujourd'hui, on utilise une certaine terminologie en histoire-géographie pour nos élèves. Je te l'ai dit tout à l'heure, on va parler des camps d'extermination. Non, ce n'est pas possible, c'est un vocabulaire nazi. On va parler de la solution finale. Non, ce n'est pas possible, c'est un vocabulaire nazi. On va parler de la nuit de cristal. Non, ce n'était pas fabuleux, ce n'était pas beau, ce n'était pas brillant, ce n'était pas somptueux. Ça s'appelle un pogrom. Et c'est toute cette terminologie, moi je suis professeur de français, le vocabulaire, ça, ça a un sens.
Bien sûr.
Eh bien, tu vois, c'est aussi ça que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Je leur dis que je préfère le mot Shoah, qui est un mot hébreu, plutôt à l'Holocauste. Tout cela, au sein de nos formations, nous les apprenons. Nous les avons notamment apprises au sein du mémorial de la Shoah. Mais je retournerai à Auschwitz par le biais de la fondation Auschwitz de Bruxelles. Cette année, le voyage est encore une fois annulé. Ce sera donc en 2022. Dans toujours l'idée d'apporter le meilleur enseignement à nos élèves. Et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer une témoin. Tu as parlé tout à l'heure du devoir de mémoire. Ce sont pour les rescapés. Nous, avec Nolan, ce que nous faisons, c'est un travail de mémoire. Mais Ginette Kolenka, par exemple, nous a donné admirablement son histoire pour que nous puissions aussi la raconter à nos élèves.
Nolan, vous êtes dans le studio aujourd'hui. Vous avez participé à cette commémoration ?
Oui, avec ma professeure de français, Madame Martin Fillon, nous avons participé avec une exposition à cette journée de commémoration.
Et elle a eu lieu où, cette exposition ?
Dans notre collège, dans le couloir de notre classe, où nous avons travaillé sur certains enfants juifs pour cette journée.
Et des enfants qui étaient dans la région qui...
Non, absolument pas. Alors, c'est une exposition, si je peux te rappeler rapidement le contexte.
Bien sûr.
C'est une exposition qui a été créée par une association qui s'appelle L'Enfant et la Shoah Yad LaYaled en France. C'est une exposition qui a pour but unique la pédagogie. Et ça s'appelle Sur les traces d'une photo. Et c'est 10 enfants qui ont été cachés en Europe. Et les élèves découvrent à travers des documents d'archives la vie de cet enfant, qui il était avant la guerre, comment il a été caché, par qui, dans quel lieu, et ensuite ce qu'il est devenu après la guerre. L'idée, c'est de mettre en lumière le rôle des Justes pour la Nation.
Qui ont sauvé des enfants.
Oui, exactement. Alors c'est ce que
Des enfants et des adultes,
voilà,
naturellement, pendant la guerre.
Oui, pardon, excuse-moi. C'est ce que je disais à mes élèves. Si on prend l'exemple de la France, 75% des Juifs ont été cachés, ont pu être épargnés pendant la guerre. Et fin de compte, au mémorial de la Shoah, sur le mur des Justes, je considère qu'il n'y a pas tant de noms que cela, compte tenu du nombre de personnes qui ont pu être sauvées. Et justement, on réfléchissait avec les élèves sur l'idée que, fin de compte... C'est juste pour la nation. Français n'ont pas souhaité forcément être mis en lumière, sachant qu'on a surtout parlé de ce qui était arrivé durant ce génocide assez tardivement. En fin de compte, au lendemain de la guerre, les Juifs qui étaient rescapés des camps n'ont pas tellement parlé, pour diverses raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et le temps passant, évidemment, pour retrouver les trois, parce que c'est trois témoignages différents qu'il faut pour justement envisager une candidature pour Yad Vashem.
Et d'ailleurs, quelques descendants, que ce soit des enfants ou des petits-enfants ou de ceux qui ont aidé les Juifs, n'étaient pas forcément au courant, parce que ceux qui ont pris part à ce sauvetage ne se sont pas forcément répandus en confidence. Même après la fin de la guerre, c'est resté
ordinaire pour des Français qui, dans les valeurs républicaines, nous avons la fraternité.
Bien sûr.
Donc, au nom de cette valeur, eh bien, un certain nombre de personnes qui pourraient être connues justes pour la nation ne l'ont pas été parce que, tout simplement, ils ont considéré qu'ils avaient fait ce qu'ils devaient faire.
Voilà, c'est le cas de la personne à laquelle je pense. Nolan, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait si pareille chose se reproduisait aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ce qui se passerait, je pense, ça peut se reproduire avec toutes sortes de religions. Par exemple, l'islamisme, pour les musulmans, toutes les religions possibles. Je pense qu'aujourd'hui, ça se passe en Chine, avec les yogourts, je crois. Et ce n'est pas... On n'en parle pas assez, je trouve. Voilà.
Oui, bien sûr, parce que d'abord, peut-être c'est très difficile de se rendre sur place, d'avoir des témoignages, de pouvoir faire des reportages. Pas forcément seulement parce que c'est la Chine, j'imagine qu'il y a des tas de pays qui ne seraient pas fiers ni désireux de montrer au monde entier ce qui se passe chez eux. C'est très difficile aussi.
C'est le cas des Ouïghours, c'est le cas aussi du génocide arménien, qui est aussi, qui a encore lieu aujourd'hui. Justement, nous, ce que l'on essaie de travailler avec les élèves, au-delà de l'exemple de la Shoah, c'est la logique génocidaire. C'est-à-dire que dans la manière dont nous enseignons l'antisémitisme, le racisme et même le complotisme. C'est l'idée qu'il y a derrière une idéologie politique. Il y a tout un mouvement qui se crée et la Shoah en est un exemple. Comme tu dis, est-ce qu'aujourd'hui il pourrait se passer la même chose? Et comme le dit Nolan, en effet, on pourrait prendre l'exemple des Ouïghours, même si aujourd'hui on nous dit qu'on n'a pas les ressources suffisantes pour prouver que c'est un génocide. Je pense qu'on disait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Tout simplement parce que ça se passe dans un régime totalitaire.
Même dans la communauté juive allemande, ça a été très difficile de pouvoir prendre pour quelques-uns la décision de quitter leur pays pour sauver leur peau. Parce que c'était quand même invraisemblable de devoir, quand on avait toute sa famille, tous ses ancêtres, tout ce qui faisait leur vie en Allemagne, de décider du jour au lendemain de partir.
Oui, alors moi je connais un exemple pour avoir travaillé dessus, qui est pour moi un homme qui a justement été visionnaire par rapport à cette montée du nazisme en Allemagne, c'est Otto Frank, le père d'Anne Frank, qui lui va vite se rendre compte de ce qu'il se passe dans son pays et va fuir à Amsterdam, où il a déjà commencé à sortir des liquidités, à créer une petite entreprise avec un autre ami d'origine allemande. Et très vite, il va comprendre qu'il va falloir fuir l'Allemagne.
Et malheureusement, c'était pas assez loin.
Alors, il va réussir malgré tout à faire survivre sa famille ensuite à Amsterdam et ils vont réussir à être cachés un certain temps dans l'annexe, c'est-à-dire non pas dans un grenier comme on a pu penser, mais
de l'autre côté d'un placard.
De l'autre côté d'un placard où il y avait environ 100 mètres carrés qui était dans l'entreprise. Là aussi, lorsque sa fille Margot Frank reçoit un avis pour aller en camp de travail, il a tout de suite compris qu'il fallait absolument aller se cacher et qu'il ne s'agissait pas d'un camp de travail. Il a été visionnaire. C'était un homme cultivé qui s'interrogeait sur les politiques qui étaient menées, qui avait fait la Première Guerre mondiale aussi. Et c'est vrai que très vite, il a réussi à mettre sa famille à l'abri. Et fin de compte, ils ont été arrêtés à la fin l'été 1944 et ils seront déportés au mois de novembre 1944. Et on est malgré tout à quelque temps de l'ouverture des camps et aussi de la fin de la guerre. Mais comme il s'était caché, si tu veux, en fait, à Amsterdam, à cette période-là, on ne déportait plus. Les Juifs restaient dans les camps, dans les Pays-Bas, et n'allaient plus dans les camps de Pologne. Mais comme eux, ils s'étaient cachés, on a considéré, si tu veux, que c'était pire. Donc, ils ont fait partie des derniers convois. Ensuite, ils sont allés à Auschwitz-Birkenau. Et là aussi, c'est assez prouvé que lorsqu'on reste en famille, on a beaucoup plus de chances de survivre. Et ce qui s'est passé pour Anne Frank, c'est que lorsqu'elle a laissé son père à Auschwitz, elle pensait qu'il était mort. Et elle a dû partir à Birkenbelsen avec sa sœur en laissant sa mère à l'infirmerie. Donc elle savait qu'elle allait mourir. Et quand sa sœur meurt du typhus à Birkenbelsen, eh bien elle est toute seule et elle pense que tout le monde est mort. Et elle va elle-même tomber malade et elle meurt à quelques jours de l'ouverture des camps.
Vous avez fait à Luret une exposition sur Anne Frank.
Alors oui, c'était un travail de mémoire qu'on a fait il y a un an dans le cadre d'inauguration de rue, mais c'est aussi un travail en fait que j'envisage de refaire l'année prochaine dans mon établissement. Bon, Nolan, vous serez parti. Je suis désolée, ce sera pour les élèves suivants qui arriveront en troisième. Parce que ce que j'apprécie beaucoup dans cette exposition, c'est que ça s'appelle Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire, justement, on peut faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et ce que j'avais vu à Valence, notamment, c'est que les élèves deviennent guides de l'exposition pour leur père, en fait. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, des élèves qui apprennent à d'autres élèves. On sait qu'à 90%, c'est ce qui fonctionne le mieux, souvent mieux qu'un professeur.
Bien sûr. Mais Nolan, vous avez déjà participé à ce genre de réunion, de préparation pour les expositions, vous êtes impliqué dans ce travail de mémoire?
Oui, avec le travail sur les enfants qu'on a fait très récemment. Et j'ai aussi d'ailleurs assisté l'exposition sur le journal d'Anne Frank à Luret l'année dernière. J'ai assisté.
Et puis Nolan fait partie de mes élèves, tu auras peut-être l'occasion de lui demander, qui en fait est assez féru d'histoire concernant la Seconde Guerre mondiale.
Vous vous destinez à quel métier, Nolan?
Je souhaite devenir architecte.
Ah, bon, rien à voir avec l'histoire, mais ma foi, pourquoi pas, remarquer, parce qu'il y a des restaurations qui sont liées à l'histoire, même dans tous les bâtiments.
Oui, parce qu'en fait, enseigner l'histoire ou enseigner la littérature, parce que les deux sont liés, je dis souvent aux élèves, pour construire notre futur, il faut évidemment avoir connaissance du passé. Parce que des erreurs qui ont été commises, enfin, on se souvient après la guerre, plus jamais cela, et fin de compte... On a vu que par le Rwanda, par exemple, que ça a encore existé. On apprend par l'histoire de ces erreurs, on apprend, on fait réfléchir les élèves à s'engager contre le racisme, par exemple, contre l'antisémitisme, contre toute discrimination. Nos adolescents sont sensibles à ces sujets-là parce que, eux, ils ne voient pas la différence entre eux. Ils ne connaissent pas le racisme. Moi, je dis souvent, c'est une idée un peu d'adulte. Donc, ils sont amenés à réfléchir sur ces notions-là et aussi à devenir les citoyens de demain.
Mais il y a aussi un rôle que les parents doivent tenir. Peut-être il faudrait aussi dans les familles que tous ces sujets puissent être abordés. C'est peut-être aussi très important que...
Alors, c'est ce que nous voulons faire avec l'exposition Anne Frank l'année prochaine. C'est-à-dire que les élèves puissent guider les parents d'élèves, qu'il puisse y avoir en fait des soirées où les élèves viendront raconter à travers l'exposition cet exemple d'une famille, l'histoire d'Anne Frank, dire aussi, c'est une expression que j'emploie en classe, 6 millions de juifs ont été assassinés. Moi, je ne dis pas cela, je dis qu'un juif a été assassiné 6 millions de fois. Et à travers l'exemple, si tu veux, de la famille Frank, on met un nom. Sur le
et
visage.
Il ne faut pas oublier non plus toutes les communautés qui ont été persécutées par les nazis,
voilà,
comme
exactement.
Les homosexuels, les
tziganes.
Les tziganes et aussi les...
Personnes handicapées.
Et les opposants politiques.
Ça faisait beaucoup de monde.
Ça fait au final 8 millions de personnes assassinées.
Mis à part la folie dans laquelle ils étaient, sans aucun doute, parce qu'autrement, comment peut-on faire une chose aussi abominable ? Comment pouvaient-ils... tout simplement penser qu'ils allaient pouvoir rayer de l'humanité des pans entiers de gens. C'est fou.
Oui. Alors, moi, je n'emploie pas ce terme-là parce que je pense justement que ce n'est pas l'œuvre d'un fou. C'est une œuvre politique avec une idéologie.
Enfin, déjà pour concevoir ça, Marlène.
Eh bien, le terreau était prêt, si tu veux. Il y avait une flambée de l'antisémitisme. Regarde en France à travers l'affaire Dreyfus, regarde la réunion des sages de Sion en 1905, qui est un des complots où on disait que, en gros, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose dans le monde, c'était de la faute des Juifs. Et c'était, je crois, c'est dans la rafle où Gad Elmaleh dit...
On est trop.
Oui, voilà, et il dit même le Titanic... c'est à cause des Juifs, et il fait cette blague en disant « parce que c'était la faute d'un iceberg ». Il joue sur les mots, et c'est assez drôle.
C'est vrai.
Et c'est l'idée, en fait, tu veux, du complotisme.
Bon, on a entendu ça aussi pour les tours jumelles de Manhattan. Hein.
Complètement. Et ce terreau, il se renforce avec une crise financière importante. Et lorsqu'il y a des crises économiques, eh bien, il faut toujours en chercher les coupables. Il y a un troisième terrain qui est celui de la Première Guerre mondiale et des sanctions qui ont été données à l'Allemagne, qui étaient des sanctions insurmontables. Ça a été une erreur
lamentable,
considérable.
Donc, si tu... lamentable et meurtrier, parce qu'effectivement, voilà. Tout le reste en découle.
Donc, tout était prêt, si tu veux, politiquement parlant. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur l'idée de la politique. Fin de compte, quand je suis partie... à Auschwitz-Birkenau en 2013, je n'avais pas envisagé le voyage de mémoire de cette manière-là. J'étais plutôt dans l'émotionnel, le compassionnel. Et je pense que ce n'était pas une bonne approche. Je pense que l'approche, c'est vraiment la logique génocidaire. C'est pas l'idée seulement d'un seul homme, mais l'idée de tout un programme, d'une idéologie. Et avec des circonstances qui étaient présentes, qui faisaient que ça pouvait avoir lieu. Oui, oui, c'est vrai. Et puis souvent, la question que l'on peut poser, que les élèves parfois posent, c'est pourquoi les Juifs ne se sont pas rebellés, voilà. Et je crois qu'en ce qui concerne les Juifs de France, ils n'imaginaient pas que ça pouvait leur arriver en France, la terre des droits de l'homme. C'était inimaginable. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, 75% des Juifs sont sauvés. Donc oui, c'était bien ce pays-là. C'était bien ce pays des droits de l'homme. Oui, pendant les rafles, il y a eu des services français qui ont œuvré à cette rafle, mais il y a aussi des hommes de la préfecture de Paris qui ont eu le courage de venir prévenir les familles. Et certains ont réussi à s'échapper.
Pour revenir à cette exposition que vous avez faite dans votre collège Albert Camus, ces enfants, il y en avait combien ? Vous m'avez parlé de 10 dans toute l'Europe. Est-ce que vous en avez un pour la France ?
On était répartis par groupe.
Oui.
Et il y avait une dizaine d'enfants. Et moi, avec mon groupe, on a choisi de travailler sur Alik Peretz. Donc, c'est un jeune lituanien qui est né en Lituanie. Mm-hmm. Et qui s'est évadé du ghetto de Kaunas pour ensuite errer jusqu'en Israël.
C'est génial, ça.
Voilà, alors, si tu veux, il y avait un enfant de Kaunas, tu en avais un qui venait de Grèce, tu avais, je crois, aussi une enfant, je crois que c'est Lisa Tannenbaum, qui, elle, était en France. Ce sont des histoires vraies, hein, bien sûr. C'est une représentation plutôt européenne, pour vraiment montrer que ça a eu lieu partout, même en Pologne. Alors qu'on sait que la Pologne a souffert vraiment de cette extermination. Et d'ailleurs, on sait très bien que le nombre infime de Juifs qui sont revenus après en Pologne ont été chassés et tués de 1945 à 1947 par les Polonais eux-mêmes, qui étaient vraiment antisémites. À travers, si tu veux, ces parcours d'enfants, l'idée, c'est de montrer que les Justes étaient différents. Ça pouvait être dans des internats, dans des familles, chez une tante. Le rôle aussi de l'Église catholique qui a œuvré pour cacher ses enfants.
Alors que Pie XII était très controversé.
Oui, mais on voit que au sein de l'Église française, eh bien, là aussi, la valeur républicaine de la fraternité a vraiment été mise en œuvre.
J'ai suivi un petit peu, je pense à ces enfants, Nolan, dont vous parlez. Ma grand-mère, qui était née en 1901, avait une amie polonaise qu'elle avait rencontrée dans un lycée, dans une pension à Versailles, et qui était venue parce qu'elle était la fille d'un ambassadeur ou de je ne sais qui, et qui était juive. Et elles ont continué à correspondre quand cette petite jeune fille est rentrée en Pologne. Et en fait, elle est morte, cette jeune fille, dans le ghetto de Varsovie, qui était déjà menacée depuis très longues années. Ça ne date pas d'hier, en fait.
Non, mes élèves, ils ont lu un livre, là, pendant le mois d'octobre ou novembre, qui s'appelle Silbermann, de Jacques de la Cretelle. Et ça se passe entre les deux guerres. Et c'est l'histoire d'un jeune lycéen juif qui arrive et qui va subir du harcèlement, de l'antisémitisme et du harcèlement. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, les pogroms ont existé depuis longtemps.
On avait au Moyen-Âge.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette journée de commémoration? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir quelque part?
Je te l'ai toujours dit, l'espoir, c'est notre jeunesse. C'est Nolan, ce sont ses camarades de classe, ce sont ses élèves qui vivent ensemble, en communauté. Mais une communauté très élargie, où ils ne connaissent pas, je pense, dans ce que j'en vois, ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni les discriminations.
Tu as combien d'élèves dans tes classes, en totalité ?
Ils ne sont pas très nombreux cette année, ils sont 24-25.
Et tu t'occupes de trois classes en particulier, les troisièmes, c'est ça ?
C'est ça, oui. Et donc, si tu veux, moi, j'ai toujours cru dans cette jeunesse, et que justement, il est important de les amener vers le savoir. Et je te l'ai dit, je sais que c'est chargé d'émotions, mais justement, on essaie de ne pas être uniquement dans l'émotion, mais dans la réflexion. Nos élèves doivent être amenés à réfléchir par eux-mêmes. C'est aussi comme ça qu'on peut vaincre le complotisme, c'est-à-dire aller chercher les bonnes informations aux bons endroits, se méfier de ce que l'on peut lire, toujours douter de ce que l'on peut nous dire, même parfois de son enseignant.
Donc, ce qui est un petit peu réconfortant, c'est que dans le dernier sondage que j'ai vu, les gens se méfient beaucoup, par exemple, de toutes les informations qu'ils ont sur Internet. Ça, c'est plutôt bien.
Oui, alors il faudrait demander à Nolan comment les jeunes font.
Est-ce que vous avez plutôt tendance à faire confiance à quels médias ? Est-ce que c'est la télévision ? Ou bien vos tablettes ? Ou bien vos parents ? Ou bien des conversations entre amis, même ? Est-ce que vous, les uns et les autres, vous échangez des informations que vous savez être fiables ?
Alors moi, pour tout ce qui est réseaux sociaux, j'écoute pas forcément les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais je vais me renseigner sur des sites de médias pour que ce soit plus officiel. Par
Oui.
exemple, sur mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Le Monde, et à chaque nouvelle information, ça m'envoie une notification.
Et puis, c'est aussi dire à nos élèves que le savoir, on l'a par la lecture. C'est en lisant qu'on se forme aussi soi-même. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Par la lecture, on va se forger une réflexion, une identité qui est autonome. Et il y a certes, en effet, comme dit Nolan, des lieux d'information. Moi aussi, comme Nolan, je regarde très peu maintenant les médias à la télévision. J'ai fait le choix de suivre les informations via Twitter. Moi, en tant qu'enseignante de littérature, j'apprends à mes élèves à lire et à décrypter. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, par le passé, on peut mieux construire son futur. J'allais te dire, donc voilà, on parlait des médias, on parlait de la lecture, et je pense que nous, les enseignants, on a aussi un rôle, tu vois, par rapport à l'enseignement de la Shoah, c'est de ne pas enseigner en moralisant. Tu vois, se placer tout le temps du point de vue de la morale. Il faut
La morale ne sert à rien, en fait.
Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais tu vois, il faut, tu me l'as dit tout à l'heure, il faut pas désespérer nos élèves. Il faut au contraire les porter par l'optimisme. Il faut parler des justes, il faut parler de ceux qui ont aidé, de ceux qui ont eu les bons gestes, les bonnes paroles. Nous, on a étudié les poètes engagés, Desnos, Paul Éluard, Aragon. L'idée, c'est de leur dire que le meilleur est toujours possible. Dans l'humain, il y a une...
Et le pire n'est jamais certain.
Voilà.
Bon, écoute Marlène, je pense que on a fait un tour malheureusement trop rapide de la question parce que tout ça est vraiment très intéressant, mais tu sais que tu pourras revenir derrière ton micro, tu prends toujours le jaune, mais c'est très bien.
C'est une couleur que j'apprécie.
Et j'espère que tout va bien aller. D'abord, un bon point pour notre gouvernement, les écoles ne sont pas fermées.
Oui, voilà. Ça, nous sommes contents chaque jour qui est gagné pour nous au collège. Nolan va peut-être en
Nolan, c'est
parler.
votre avis aussi.
Oui.
Oui, c'est difficile finalement d'étudier chez soi, même soutenu par les professeurs derrière l'écran, et c'est pas évident, quoi.
C'est très difficile parce qu'on n'a pas l'avis direct des professeurs et on a la pression. On a beaucoup de pression, sachant que si on ne sait pas s'organiser, on est perdu. Et si on s'organise trop bien, on pense être perdu.
Ah oui?
Oui. C'est ce qui s'est passé avec moi au dernier confinement. Je me suis très très bien organisé et au final, je me perdais dans mon organisation.
Par pression, Nolan, pour
Par
comment?
pression.
Trop de choses,
Bah,
trop de documentation, trop
trop,
de...
trop de documents imprimés, trop de. Les professeurs ne donnaient pas les travaux sur les mêmes sites. Fallait chercher sur
Oui, en
différents.
fait, moi je comprends ce que veut dire Nolan. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce confinement annoncé le jeudi soir pour le vendredi soir, fin de compte, ça nous a tous pris un peu de court. Il y avait mes collègues qui travaillaient sur Discord, peut-être d'autres sur Zoom, peut-être d'autres sur Pronote, qui est notre site d'information pour les compétences ou pour les bulletins ou d'information pour les parents. Donc, si tu veux, pour les élèves, ça multipliait les supports. Il y a eu au début des difficultés pour organiser, si tu veux, la bonne justesse du travail, ne pas trop en donner non plus, parce qu'ils étaient submergés, parce qu'eux-mêmes devaient s'organiser. Donc, c'est assez
Ça, c'est le
difficile.
seul point positif, finalement, qu'ils apprennent eux-mêmes à s'organiser. C'est quand même vraiment
Oui,
précieux.
en fait, ça a fait grandir beaucoup d'enfants et ça leur a permis d'être autonomes. Attention, hein, on a aussi beaucoup perdu de jeunes pour qui ça a été insurmontable, pour eux, mais aussi pour leur famille, parce que entre des parents qui étaient eux-mêmes confinés, qui télétravaillaient, qui devaient faire l'école à la maison, qui devaient gérer certainement leur propre stress par rapport à la situation, moi, je n'ai absolument pas envie de revivre cette expérience et je te l'ai déjà dit, nous sommes faits, professeurs, élèves et parents, pour être ensemble. C'est le fameux triangle et moi, je suis faite pour être en classe avec mes élèves. Sûrement que je leur apporte des choses, mais ils m'en apportent aussi beaucoup.
Marlène, ça va être le mot de la fin. J'espère que tu reviendras derrière ce micro. Nolan, j'étais ravie de vous
Moi
rencontrer
aussi.
et que vous veniez partager un petit peu cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'a passionnée. Et je vous retrouverai bientôt pour une autre émission d'Histoire d'en savoir plus. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.